RMC, Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
La loi sur l'IVG avait provoqué de nombreux remous et j'en profite pour saluer le courage de Simone Veil, grâce à qui de nombreuses femmes aujourd'hui peuvent avorter dans des conditions acceptables. L'avortement, il faut le rappeler, était considéré comme un crime. Aujourd'hui, l'IVG est presque considéré comme un acte banal. Pourtant, j'entends souvent des femmes qui se sentent encore coupables 20 ans après. Et puis, j'entends aussi des couples qui n'ont pas pu survivre à cet événement. Le délai de réflexion est, semble-t-il, supprimé sous prétexte qu'on stigmatisait les femmes voulant pratiquer une IVG. La contraception est de plus en plus remise en cause, comme si la pilule rendait la femme esclave de je ne sais quoi d'ailleurs. Bref, ces libertés obtenues, elles semblent aujourd'hui banalisées. On oublie peut-être un peu trop les combats qu'il a fallu mener. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous propose qu'on évoque l'IVG et est-ce que c'est un acte banal? C'est la question que je vous pose. Christian Jamin va y répondre dans un instant, il est gynécologue et puis on verra peut-être aussi avec lui si la femme est si libre que ça vis-à-vis de sa capacité à procréer. N'hésitez pas en tout cas à nous faire part de votre expérience et peut-être à donner votre avis en composant le 32-16. Après 15h20, notre sportif du jour sera Amaury Leveau. On change totalement de discipline puisque Amaury Leveau est un nageur professionnel. La natation est un sport d'ailleurs qui réussit plutôt bien aux Français. On a déjà eu pas mal de médailles. Et si vous voulez profiter de sa présence pour lui poser une question, vous appelez tout de suite le 32-16. Au programme également, nous aurons un coup de cœur. Aujourd'hui, on va évoquer cette revue qui vient de sortir, qui s'appelle La Chose. C'est une revue pop-porn. Et Jocelyne Bordas sera avec nous pour en parler. Notre fil d'Ariane nous proposera d'améliorer notre sexualité sous la douche. Ève a testé un vibromasseur Love G by Clara Morgan. Et puis, tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Jamin. Bonjour.
Bonjour.
Christian Jamin, vous êtes médecin spécialiste en endocrinologie et gynécologie. Vous avez beaucoup travailler sur les différentes pilules. Vous êtes parfois un peu accusé à tort, je le précise. Moi, je suis persuadée de votre totale intégrité. L'IVG, acte banal aujourd'hui pour vous, qu'est-ce que vous pourriez dire?
Alors, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que si on dit que c'est un acte banal, on vous dit qu'on la banalise, mais si on vous dit que c'est lié à l'échec de la contraception, on vous accuse aussi de ne pas donner ce droit aux femmes. Je pense que, comme d'habitude, la vérité est entre les deux.
Alors moi, justement, en préparant l'émission, j'ai eu envie de dire, et donc je vais le dire, peut-être que l'IVG, c'est un échec de la contraception, mais ce n'est pas une erreur de vie.
Non,
parce qu'il faut pas, il faut pas non plus stigmatiser les femmes.
Faut absolument pas stigmatiser les femmes. Il faut être là, il faut être disponible, et je le suis, je le maintiens. Alors moi, je suis plutôt un coureur de fond de la contraception, c'est-à-dire que j'y ai travaillé sous toutes ses formes, la contraception classique, la contraception d'urgence, qui m'a valu une petite remarque récente. Oui, je pense que de toute façon, on ne peut pas avoir un parcours sans faute au cours de sa vie reproductive et que on a droit à l'erreur et on a droit donc à ce qui vous permet de le gérer avec le moins de conséquences possibles, c'est l'interruption volontaire de grossesse telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est-à-dire légalisée et médicalisée.
Bien sûr, on va évidemment pas revenir sur cette loi qui il faut le rappeler, elle a été terriblement difficile à faire passer. C'était en 75, je crois.
Oui, il faut réécouter. Il faut réécouter deux choses. Il faut réécouter les débats à l'Assemblée pour la contraception du temps de Neuwirth en décembre 67, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, le magnifique combat de Simone Veil aussi à l'Assemblée nationale, ça en dit long sur l'évolution des mentalités et sur la stigmatisation qu'il y avait à l'époque et sur la contraception, puis sur l'interruption de grossesse.
Alors, comme moi, je n'ai jamais ma langue dans ma poche, je me permets de dire à tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont contre l'IVG, sont contre la pilule du lendemain, sont contre la pilule, réfléchissez bien si vous n'avez pas un problème avec la sexualité féminine et si vous n'avez pas encore un petit peu tendance à penser que la femme, ça doit faire des enfants et ça ne doit pas baiser à tort et à travers. Voilà, c'est dit. Mais wow. Ça n'engage que moi. Damien, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Christian.
Bonjour.
Moi, justement, je vais aller un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que À la base, je suis contre l'IVG. Tout simplement, c'est pas un acte banal. Hein. Il faut pas oublier qu'on ôte la vie quand on fait un IVG.
On note pas la vie, on empêche la vie de se développer. C'est pas tout à fait la même chose.
Ouais, mais enfin, ça dépend de la manière dont on le vit, de la manière dont on le prend. Effectivement, c'est pas la vie comme on l'entend, mais à partir du moment où elle a été créée, cette vie, où on a, même si c'est pas forcément un acte voulu, enfin voilà.
Damien, et je crois que Christian Jamin va pouvoir affirmer ce que je vais dire. Le nombre de fois où une femme a un embryon qui est en train de se créer, puis qui finalement va faire une fausse couche, on peut pas considérer que c'est la vie dès qu'il y a l'ovule qui a été pénétré par un spermatozoïde. Non, on peut pas. C'est trop. Enfin, je veux dire après. Mais je comprends vos convictions morales, mais sur un plan scientifique, on peut pas dire que la vie commence au moment où l'ovule est fécondé. Enfin, je sais pas, quel est votre avis de scientifique, Christian Jamin ?
Alors, il s'agit pas d'un problème scientifique, il s'agit d'un problème moral ou sociétal, c'est-à-dire à quel moment commence la vie. Alors, on peut considérer que la vie commence à partir du moment où on n'empêche pas qu'elle vienne. Ça s'appelle la contraception, ça veut dire anticonception. Et il y a des religions qui sont contre la contraception. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la contragestion, c'est-à-dire qu'il y a eu fécondation, mais on empêche l'œuf de s'implanter. Et puis après, il y a l'avortement, c'est-à-dire l'œuf est implanté, et puis il y a la définition de la vie, c'est à partir de quel moment un enfant devient viable dans le ventre de sa mère. Donc toutes les définitions existent, on peut y passer des heures et des heures, donc c'est pas un problème médical, c'est un problème
moral.
Et c'est pour ça que je venais là-dessus, Brigitte. Moi, c'est une question morale, tout simplement. Après, pour ce qui est du médical, je suis pas contre l'IVG quand il y a des maladies graves ou qu'il y a une nécessité, une dangerosité pour la mère, ou par exemple dans le cadre de viol, où ça peut laisser une trace psychologique également. Enfin, pour toutes ces raisons-là, je ne suis pas contre l'IVG. Mais l'IVG, pour faire un IVG, pour se dire, on a fait une erreur, on note la vie. Non, je suis contre. Et là, c'est une question morale.
Donc, vous voulez dire que, par exemple, une jeune femme de 15 ans ou 16 ans, 17, enfin, on va dire 17 ans, allez, qui a eu une relation avec son petit ami et puis qui n'était pas trop au courant ou a oublié de prendre la consommation, on ne doit pas pratiquer l'IVG?
Là, dans ces cas-là, c'est les parents qui n'ont pas bien fait leur rôle ou autre. C'est pas.
Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On l'aide à pratiquer l'IVG ou on lui interdit ?
Là, c'est un cas qu'il faut se poser. Moi, je suis contre à partir de ce moment-là. Pour moi, c'est une bonne éducation qui doit faire le travail et qui doit l'empêcher.
Mais on est tous d'accord que c'est une bonne éducation et qu'il faut continuer à encore et toujours donner l'information. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Mais quand il y a échec, qu'est-ce qu'on fait ? On stigmatise, on empêche ou on autorise? Je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous, c'est choquant. Il y a 200 000 IVG par an à peu près en France. C'est vrai que c'est choquant. Mais en même temps, quand on calcule ces 200 000 IVG par rapport au nombre de rapports sexuels qu'il y a, c'est peut-être pas grand-chose.
Mais moi, je voudrais ajouter qu'il n'y a pas d'opposition entre l'éducation et la réparation. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est-à-dire que, manifestement, en France, l'éducation contraceptive est totalement insuffisante. Ça ne bouge pas. Les femmes font, et les hommes, bien évidemment, ne prennent pas les précautions nécessaires. Et ça, je suis d'accord avec vous, cher monsieur. Mais après, est-ce que on doit effectivement faire que la vie d'une adolescente ou même d'une femme qui a eu un moment d'égarement à une soirée soit totalement bouleversée? Après, comme vous le dites, c'est un problème moral, et la morale, ça ne se décrète pas. Effectivement, ça s'enseigne.
Mais aujourd'hui, Brigitte, il y a l'adoption, il y a des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui ont des vrais problèmes médicaux, et qui souhaitent adopter. Ben, il y a des centres d'accueil, il faudra peut-être développer d'autres choses pour permettre à la vie de continuer à se développer, mais sans briser forcément la vie de ces jeunes filles. Moi, je suis pour...
D'accord, donc on les laisse mener à terme leur grossesse, on leur prend leur enfant et on les donne aux couples qui veulent adopter.
Ben, c'est pas qu'on leur prend, c'est elles qui décident de se séparer.
Oui, je comprends bien.
C'est pas on leur prend de force ou autre, hein. C'est elles qui décident de s'en séparer ou non. Et dans ces cas-là, il y a des couples qui sont prêts à accueillir la vie, qui sont prêts à les aimer comme leur propre enfant. Plus, moi, je parle en connaissance de cause, j'ai adopté la fille de ma femme. Donc, c'est pas moi qui lui ai donné la vie, mais je l'aime comme ma propre fille et comme mon propre enfant, donc on peut très bien aimer sans avoir donné la vie.
Ça c'est évident, Damien, je vais pas vous dire le contraire, mais vous imaginez ce que ça peut provoquer chez une jeune fille? Alors à 15 ans, elle a pas envie de évidemment d'élever cet enfant, elle le donne, et puis quand elle aura 30 ans, 35 ans, vous imaginez ce que ça peut provoquer chez elle de se dire j'ai abandonné mon enfant?
Ah, effectivement, et ça demande peut-être un suivi spécifique. Après, c'est des questions à se poser, et c'est des cas particuliers et des cas moraux complexes. Hein. On n'est pas sur sur une chose facile, mais quand bien même à 30 ans, elle aura peut-être le même questionnement de se dire bah mince, j'ai ôté la vie à mon premier enfant, ça se trouve je l'aurais aimé. Elle aura peut-être les mêmes questions en ayant fait un IVG.
Bon, en tout cas, on est d'accord, c'est pas un acte banal. Ça, c'est au moins sûr. Hein, on n'est peut-être pas d'accord sur beaucoup de choses, Damien, mais on est d'accord là-dessus. Mais en tout cas, merci, parce que grâce à vous, on démarre un débat particulièrement puissant. Hein.
Très bien, bah merci beaucoup de votre accueil, Brigitte.
Mais je vous en prie, Damien. Vous voulez réagir, Christian Jamin ?
Non, je disais que je voulais revenir sur ce que je venais de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre prévenir les fautes et de ne pas les réparer. C'est deux choses totalement différentes. Et je partage l'avis de Damien sur le fait qu'il faut enseigner la contraception, il faut enseigner, pourquoi pas, la possibilité de ce qu'on appelle l'accouchement sous X, mais ça ne résoudra jamais la totalité des problèmes. Ils existeront toujours. Et pour moi, l'IVG reste nécessaire pour réparer toutes ces erreurs. Et qui dans la vie ne fera jamais d'erreur, qu'on lui jette la première pierre?
Ah oui, bien sûr. Bon, en tout cas, moi je vous propose d'aller voter sur mon compte Twitter. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'IVG? Peut-être qu'on va avoir des surprises. En tout cas, allez voter. Plus vous serez nombreux, plus évidemment ce vote aura une signification. Merci en tout cas, Damien, et c'est Jean-Louis maintenant qui a la parole. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Voilà, moi je voulais intervenir parce que j'ai essayé de parler avec vous il y a à peu près déjà il y a deux mois au sujet de l'IVG, mais sur un autre axe, je crois. Moi j'ai 64 ans.
Oui.
Je suis toujours avec ma femme, bien sûr. Lorsque j'étais jeune, je me suis marié en 77. À partir de 1980, on a essayé d'avoir un enfant. Et on avait du mal à en avoir. Bon, on m'a accusé que j'étais impuissant. Finalement, il s'avérait que c'était plutôt ma femme qui avait des problèmes.
Infertile, vous voulez dire, pas impuissant?
Oui, infertile, on va dire, voilà, exactement.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, je suis d'accord, ok. J'ai peut-être pas dit le bon terme.
C'est pas grave.
Et finalement, il s'avérait que c'est ma femme qui avait quand même des petits soucis médicaux. Alors, le dossier, moi, je l'ai plus en tête, hein, concernant ma femme, parce que je téléphone, ma femme n'est pas au courant du tout que je vous appelle. Hein.
D'accord. Ouais.
Mais c'est quand même un sujet qui a quand même été pour moi douloureux, parce que je vous explique, ma femme a été enceinte médicalement et assistée par un grand médecin.
Mmh.
Elle est tombée enceinte. Donc ça a été le premier enfant. Et pour le deuxième enfant, ça a été la même chose. J'ai eu une fille après, en 1985. Il a fallu qu'elle soit assistée médicalement. Et on a eu de nouveau un enfant. Et en 1987, ma femme ne prenait pas de moyens de contraception. Et elle s'est retrouvée naturellement enceinte.
D'accord, d'un troisième enfant.
Mais,
donc.
Voilà, troisième enfant. Mais j'ai oublié de vous dire, entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire que les deux enfants qu'on a eus, elle était malade pendant pratiquement 8 mois et demi.
Pendant sa grossesse, d'accord.
Pendant sa grossesse elle était malade, c'était épouvantable. Voilà, ce qui fait que elle m'a mis devant le fait accompli, si j'ose dire, mais je ne reproche pas. Hein. On a décidé ensemble. Elle a fait donc une intervention volontaire de grossesse. Pour le troisième enfant, qui était comme un enfant que nous avions fait tout seul, quoi.
Mmh.
Donc c'est, pour moi, je voulais trois enfants, hein. Donc, j'en voulais trois.
Donc vous, si vous aviez pu choisir, vous auriez élevé ce troisième enfant.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais ma femme, j'ai écouté ma femme, donc on peut pas être contre l'IVG, vous voyez. pour moi, c'est pas un acte de banal, c'est un acte, quoi qu'il arrive, c'est un acte tragique.
Mais bien sûr, et je le comprends. Je le comprends d'autant plus parce que vous le racontez bien, Jean-Louis, le troisième enfant, c'est un enfant que vous avez pu avoir vous-même sans l'aide d'un autre.
Sans l'aide de qui que ce soit.
Oui. Ouais, et donc c'était peut-être le plus chouette.
Ça, c'est très dur. C'est encore dur aujourd'hui parce que maintenant je suis arrière-grand-père, j'ai un petit-fils qui est adorable. Je m'en occupe beaucoup. Et pour moi, c'est dur parce que c'est la vie, quoi. Donc on ôte la vie, mais d'un côté, c'est la femme qui choisit, quoi. Nous, on est que porteurs, vous voyez. Ma femme souffrait tellement qu'elle était obligée de dire.
Mais voyez, Jean-Louis, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'interpelle surtout dans votre témoignage, c'est qu'on voit à quel point la fertilité et l'infertilité sont finalement très complexes, parce que votre femme, elle était soi-disant infertile, et puis du moment où on lui a autorisé à avoir deux enfants, du coup, elle peut naturellement avoir un troisième éventuel. Bon, elle n'a pas voulu le garder pour des tas de raisons qu'on peut comprendre, mais ça montre bien que de toute façon, vous n'étiez pas impuissant et elle n'était pas si infertile que ça non plus. Mais il y avait des blocages, il y avait des blocages.
Exactement, il y avait des blocages, mais pour moi, c'est toujours difficile de me dire on s'est débloqué tout seul et voilà, on a entre guillemets, on a ôté la vie à un enfant. Bon, j'ai une part de responsabilité ainsi que ma femme, quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est un sujet, on n'en parle absolument pas, hein. Et mes enfants sont pas au courant, hein. Et ils ne le seront jamais.
Mais vous avez peut-être besoin de l'exprimer, c'est pour ça que vous avez appelé, et vous n'êtes, vous n'êtes coupable en rien, Jean-Louis, encore une fois.
Je
crois qu'il faut vraiment comprendre que c'est un choix de société qu'on a aujourd'hui et qui est certainement positif parce que l'époque où les enfants arrivaient et qu'on arrivait à peine à s'occuper de tous, c'était pas forcément meilleur. Maintenant,
c'est vrai. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Justement, Simone Veil en 75 et en 79, ça a été définitivement adopté. Il y a eu la loi sur l'IVG pour pas de tas de jeunes que. À l'époque de la liberté sexuelle, bon, il y a des gens qui se faisaient, qui avaient des enfants, malencontreusement, quoi. Donc là, ça, c'était très bien, quoi. Moi, il se trouve que c'était le contraire, quoi. Vous voyez, c'est le contraire.
Mais ce qui est dommage, Jean-Louis, voilà. Et je l'entends bien, c'est qu'au fond, votre femme n'a pas compris, peut-être, votre désir le plus profond et votre souffrance, et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas en parler dans votre couple.
Non, on n'en parle pas, mais je me suis soumis à sa décision. Je voulais qu'elle soit la plus heureuse possible avec les deux enfants. Mais j'aurais toujours ce regret, vous voyez, mais c'est la vie, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, j'ai 64 ans.
En même temps, Jean-Louis, grâce à ce renoncement et à ce deuil que vous avez dû faire, vous avez gardé votre femme et votre couple a survécu. Alors, c'était un choix qu'il fallait faire.
Bien sûr, j'aurais jamais quitté ma femme pour autant. Ma femme, je l'aime. On ira jusqu'au bout. Si vous voulez.
En acceptant ce renoncement, vous lui avez fait un cadeau. Voilà.
Oui, voilà. Mais je voulais donner ce témoignage-là parce que c'est les concours de circonstances et je trouvais ça intéressant d'avoir un témoignage à l'envers, quoi. Hein. Mais il est évident que moi, je suis pour l'IVG. Je veux dire, dans la majeure des cas, j'ai l'IVG. Est une nécessité. Bon, je pense que c'est une nécessité et nécessaire. Voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Je vous en prie. Merci. Au revoir.
Merci à vous. Et puis, notre onde positive du jour, je vais parler de la bonne distance. C'est important de respecter la bonne distance quand on est en société. Suivant les personnes avec qui on est, on a besoin d'être plus ou moins à distance. Et je trouve que c'est vraiment important de respecter ses limites et à les faire respecter. Dès que vous avez l'impression que quelqu'un vient trop près, eh bien, signalez-le ou éloignez-vous et veillez toujours à être à la bonne distance et vous verrez que vous améliorerez beaucoup vos relations. On se retrouve dans un instant. Vous pouvez réagir, bien sûr, au 32-16. À tout de suite.
Détendu, timide, libéré, extraverti, décomplexé ou exubérant, tous chez Brigitte sur RMC.
Christian Jamin est avec moi, vous êtes gynécologue, endocrinologue. On parle aujourd'hui de l'IVG, dans un instant on évoquera cette revue pop-porn. Mais d'abord on va donner la parole encore à un homme, c'est étonnant, hein, Christian Jamin, c'est les hommes qui témoignent pour évoquer l'IVG, comme quoi ils sont plus plus conscient de la chose qu'on ne pourrait le croire.
C'est vrai, mais ce qui est curieux aussi, c'est que très souvent, on voit des femmes qui viennent faire des IVG sans informer l'homme. L'homme est manifestement extrêmement impliqué, mais il ne l'est pas toujours dans la réalité.
Oui, c'est-à-dire qu'il peut complètement ignorer parce que sa compagne ne le préviendra absolument pas. Ce qui est pas terrible, parce que c'est quand même une affaire de couple avant tout. Patrice, bonjour. Enfin, sauf que si c'est une femme, évidemment, qui a des partenaires multiples et qui vit sa vie. Bonjour, Patrice.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Monsieur Jamin.
Bonjour.
Donc, moi, je vous appelais pour faire part de mon expérience personnelle. Et je pense que l'IVG, c'est pas un acte anodin. Et je m'appuie sur mon expérience personnelle pour ça. En fait, je pense que l'IVG, pour moi, ça se décompose en trois cas. Il y a l'IVG de confort, c'est-à-dire que je suis jeune, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment, voilà. Il y a l'IVG moral, tout ce qui est inceste, viol, etc. Et après, vous avez l'IVG médical. Pourquoi c'est horrible, ça vaut ce que ça vaut. Ça fait bonne raison, c'est que moi j'ai eu affaire à un IVG de confort quand j'étais très jeune, avec une jeune fille. On n'avait absolument pas l'intention de faire notre vie ensemble, on s'entendait très très bien. Et puis, preuve que ce n'est pas anodin, puisque cette personne, suite à ça, à cet épisode, a coupé les ponts. Et j'ai respecté son choix, j'ai essayé de la recontacter au début, et bon, il n'y a pas eu de suite. Et dans un deuxième temps, en fait, une vingtaine d'années plus tard, j'ai
été confronté. C'est fréquent, ça, hein, Patrice. Quand on est très jeune et qu'il y a une IVG, souvent, ça met en effet la relation en péril.
Oui, c'est clair.
Oui, Christian, allez-y. Oui.
Oui, je voulais juste dire que, oui, je comprends votre clivage entre les trois types d'IVG, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie de tous les jours, les frontières sont très floues. Entre l'IVG de confort, l'IVG de nécessité, l'IVG médical.
Dans mon argumentaire, pour dire que c'est pas anodin, c'est que je vous prends le troisième cas de figure.
Donc 20 ans après, oui.
Voilà, donc ça, c'est pas vieux, ça date d'il y a 3 ans. Donc, à 2 mois du terme de la grossesse de mon épouse, on nous a diagnostiqué une anomalie cérébrale sévère sur ma petite fille. Et donc, on avait 3 solutions. C'était soit on arrêtait, ce qui nous a été beaucoup, beaucoup proposé. Soit on continuait, on faisait de l'acharnement thérapeutique, soit on continuait et on la laissait partir. Donc, dans tous les cas, de toute façon, l'issue était fatale. Et il s'avère que mon épouse et moi, même si effectivement mon épisode de quand j'étais jeune n'est pas en contradiction aujourd'hui, on a des convictions religieuses et on a décidé d'aller au bout de cette grossesse. Et en fait, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une merveilleuse petite fille qui est très très éveillée, en excellente santé. Donc c'est pour vous dire que c'est pas anodin, il y a des décisions qui peuvent être prises sur des purement des statistiques. Et derrière aussi, il y a des... Enfin, c'est pas anodin. Vous voyez, la jeune fille avec qui j'étais il y a 20 ans, ça a dû être un drame pour elle de le vivre, puisque derrière, elle a souhaité ne pas se remémorer ce moment en coupant les ponts. Et de l'autre côté, nous, on a vécu un moment tragique qui s'est bien fini, mais on aurait très bien pu, on nous a proposé d'interrompre la grossesse, on aurait très bien pu ne pas avoir notre petite fille alors qu'elle était en excellente santé.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas avoir des convictions trop arrêtées, parce que c'est, je pense, enfin, le sujet du jour, me semble-t-il, est vraiment un sujet sur lequel il faut avoir beaucoup d'ouverture d'esprit et de tolérance, parce que chaque cas est un cas particulier, me semble-t-il.
Oui, pour preuve, hein, mais c'est pour ça que je vous dis que ça sert à rien d'être des réducteurs. L'IVG, faut être extrêmement pragmatique.
Oui, mais il faut laisser à chacun la possibilité de le pratiquer ou pas. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut. Et moi, je pense, c'est pour ça que je sais pas exactement où on en est la loi sur le délai de réflexion, mais je pense que c'est aussi important que les femmes puissent s'exprimer avec quelqu'un capable de les écouter et justement de les aider à être claires avec elles-mêmes. Parce que c'est vrai que on peut prendre une décision de manière comme ça très très rapide.
Ouais, c'est des situations qui sont très compliquées à gérer.
Mais évidemment.
Je vous prends le cas de figure de ma petite fille. Moi, ma position à ce moment-là, ça a été de dire à mon épouse, écoute, je peux pas prendre la décision moi. La simple et bonne raison, c'est que le bébé est dans son ventre. Mettons que elle veuille le garder et moi non, je fais quoi? Je vais pas l'éventrer. Donc du coup, ma position, ça a été, écoute, tu prends une décision et dans tous les cas, je t'appuierai, je serai derrière toi, je serai avec toi. Je serai à 100% d'accord avec ce que tu choisiras. Mais nous, en tant qu'hommes, on n'a pas le choix. Parce que
si vous avez eu la bonne attitude, bien sûr que vous avez le choix, vous pouvez en parler
la
ensemble.
La bonne attitude, je sais pas, parce que vous voyez, pendant un an aujourd'hui, je vous cache pas que mon épouse et moi on prend des chemins différents, mais à l'époque, mon épouse, on en a reparlé pendant un an, elle était satisfaite effectivement de la façon dont ça s'est passé. Ensuite, elle a eu de très mauvais conseils de la part d'une personne, et aujourd'hui, elle part du principe que je n'ai pas assumé mes responsabilités. Mais un homme qui... On ne peut pas prendre position, on ne peut qu'accompagner la personne dans son choix.
Vous avez le droit de donner votre avis quand même en tant qu'homme, enfin, et je pense que, enfin, moi il me semble que justement il faut arrêter ce clivage où ce n'est que les femmes qui sont responsables de si elles sont enceintes,
de toute façon,
si elles pratiquent l'IVG.
En cas de désaccord, on fait comment? On n'a pas de bonne solution, puisque de toute façon, combien même si moi j'avais imposé quoi que ce soit, elle aurait pu me le reprocher des années. Et si c'est elle qui avait choisi, c'est moi qui lui aurais reproché.
Vous savez, j'entends Patrice parfois des hommes qui témoignent et qui disent de toute façon c'était soit elle pratiquait l'IVG, soit je la quittais. Enfin, j'entends tout. Je pense que chacun réagit comme il peut. Ah, on a Patrice qui visiblement a été coupé. Christian Jamin,
non, je suis là, je vous entends.
Pardon,
je vous entends.
Excusez-moi.
Oui, bah écoutez, effectivement, in fine, c'est la femme qui prendra la décision.
Voilà.
Mais ça se passe en général dans les bons couples, après un dialogue et après une persuasion dans un sens ou dans l'autre. Donc non, il n'y a pas de... évidemment, c'est la femme qui porte la grossesse et évidemment, c'est elle qui aura le dernier mot. Mais c'est pas une raison pour se le cacher, c'est pas une raison pour se l'imposer. C'est le propre du couple, c'est le dialogue.
Ouais.
Mais c'est aussi la femme qui prend la contraception, c'est aussi la femme qui a l'angoisse.
Nous, c'était une grossesse voulue, donc c'était pas...
Oui, je sais bien. Je sais bien, Patrice, mais je parle en règle générale.
Ouais.
C'est vrai, mais en même temps, ça a des avantages et puis ça a aussi pas mal d'inconvénients d'être femme, Patrice.
Et
ça pas que des avantages.
Je vous le concède.
Et puis l'accouchement, vous savez, si on pouvait, on vous le donnerait.
Oui, Pierre Desproges disait l'accouchement est un acte terrible, heureusement que les femmes sont là pour nous tenir la main.
En tout cas, merci beaucoup, Patrice.
Je pourrais avoir une personne hors antenne, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, Patrice. Ne raccrochez pas, on va vous prendre hors antenne.
Gentil, je vous remercie de votre écoute.
Je vous en prie, Patrice. Merci à vous. Et puis, on change totalement de sujet, mais bon, c'est le propos aussi dans cette émission. On parle de cette revue qui vient de sortir, alors qui s'appelle La Chose. C'est une revue pop-porn. Jocelyn Borda, vous êtes avec nous, vous êtes créateur de cette revue. Alors, a priori, elle peut paraître un peu surprenante. Alors, je précise, on la trouve en librairie, à la FNAC, enfin, etc. Elle peut être assez surprenante parce qu'on a en couverture une poupée gonflable, pas très sexy, faut bien le dire.
Ah, vous trouvez?
Ah oui, moi je la trouve pas sexy du tout.
Ouais, moi je l'aime bien. Quand elle me regarde droit dans les yeux, là elle me fait un truc.
Bah dites donc, on n'a pas le même érotisme.
Peut-être.
Bref, mais en tout cas c'est une revue qui parle beaucoup de sexe évidemment, beaucoup de pornographie et qui essaye peut-être un petit peu de remettre les choses, si je puis dire, à leur juste place. Il y a une superbe interview de Henri Gigoux qui, je le rappelle, a été un des créateurs du journal du Hard. Sur Canal+. Il y a aussi l'historique du God Miché, moi, qui m'a amusé, parce qu'il faut peut-être rendre aux Grecs ce qui leur appartient. Je ne savais pas que c'était en Grèce.
Eh oui, c'est vieux comme les Grecs. L'Olisbos, à l'époque, on appelait ça comme ça. Ouais. On essaie de retracer l'histoire.
Ça ne m'étonne pas d'eux.
On est d'accord.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette revue, Jocelyn Borda?
En fait, on a créé cette revue à trois avec Anaïs Carillon et Camille Emmanuel, quoi, que vous avez déjà reçu ici, je crois.
Mais c'est grâce à elle que j'en parle, d'ailleurs, oui.
Tout à fait, on la remercie. Ça venait d'un manque en fait. On se disait entre les revues en kiosque, vous savez, c'est les revues au-dessus là, sous blister,
les revues qui marchent plus très bien d'ailleurs.
Qui marchent plus très bien. On dit des fois avec un peu de mépris les revues pour routiers. Bon, il y a ça. Et puis
attention à ce que vous dites.
Je prends des précautions. Mais entre ces revues là qu'on connaît, qui marchent plus très bien, et d'autres revues un peu pour initiés, on se disait il y a un manque. Il manque une revue de cul qui soit un peu intello, un peu rigolote, qui mélange un peu toutes les sexualités. Et on prenait l'apéro, on se disait, mais cette revue n'existe pas.
Alors, je suis d'accord, il y a des choses très drôles, mais en même temps, je la trouve parfois pas assez grand public, me semble-t-il. Ce qui est la vie de Christian Jamin aussi, je crois. Hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, vous l'avez bien dit, on est en balance entre le côté gay, champagne et drôle de l'amour et le côté un peu intello. Alors, bon, c'est pas facile de trouver le bon équilibre.
On a essayé, en effet, de panacher. Vous avez des articles qui sont un peu plus exigeants, parce qu'on a voulu les offrir aussi, pour avoir aussi des angles différents, je sais pas, sur le féminisme, ou sur il y a un article sur la masculinité érotique des femmes, qui est un peu ardu, mais qui pose des questions un peu différentes. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a des choses sous forme de liste, sous forme de top, les pires phrases à ne pas dire quand on fait l'amour. Donc, on a essayé, en effet, de mélanger à la fois les genres, les sexualités et aussi les registres. Et c'est ça aussi qui nous manquait, parce qu'on est une génération qui vient d'Internet. Moi, j'ai un site qui s'appelle Brain Magazine, où on mélange aussi un petit peu les choses. Quand vous allez sur Brain, il y a des choses sérieuses, et puis à côté, des choses qui sont un petit peu absurdes. Et on se disait, mais en fait, on vit tous le sexe de cette manière-là, quand on fait l'amour. Des fois, on est sérieux, et des fois, on rit aussi. Et on s'est dit, il n'y a pas de revue qui retranscrit cette expérience qu'on a, en fait, tous.
Mais je pense en effet que, enfin, vu ce que vous dites, elle est totalement réussie, cette revue qui s'appelle La Chose, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une revue de trentenaire d'aujourd'hui.
Oui, et c'est vrai que cette tonalité de...
Vous êtes un vieux con, Christian Jamin, c'est pour ça que ça ne vous a pas plu.
Mais j'assume, mais un vieux con polisson.
Mais on parle beaucoup de nos aînés aussi dans la revue. Vous avez un long entretien avec Richard Allan, un ancien acteur X qui est un senior aujourd'hui.
Je ne vois pas qui c'est.
C'est pas non plus. On n'a pas cherché non plus à faire un truc jeuniste.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais on sent que c'est l'esprit de porno d'aujourd'hui, quoi.
Si vous voulez, en fait, on se disait il y a des nouvelles manières de parler du sexe aujourd'hui. Aux États-Unis, on parle de culture porn. Il y a beaucoup d'analyses sur les films porno. Conçu comme presque comme une culture, il y a des gens qui en parlent de manière rigolote sur Internet, mais on se disait c'est pas réuni dans une revue. Ce ton qu'on trouve sur Internet, ce ton, je crois, un peu nouveau. On peut prendre un site par exemple comme le Tag Parfait, mais qui est un peu le seul qui a cette tonalité comme ça, un peu où on mélange le rigolo, le sérieux, et on mélange aussi les sexualités. C'est très, très important pour nous. Je crois que c'est une des premières fois d'ailleurs en France où une revue ose la juxtaposition de choses gays vraiment gays, de choses lesbiennes vraiment lesbiennes, de choses hétéro vraiment hétéro.
De zoophilie, mais chut, faut pas dire. Bon, Jocelyn Borda, en tout cas, bravo. J'avais envie donc d'en parler de cette revue, parce que je pense qu'elle mérite d'exister. Ça s'appelle La Chose. Vous la trouvez dans toutes les librairies. Et puis, évidemment, vous pouvez vous la procurer sur Internet, j'imagine.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Jocelyn Borda. Notre fil d'Ariane, on va prendre une douche pour améliorer notre sexualité. Ben, ça, tiens, vous pouvez rester. Ça vous intéresse peut-être, Jocelyn.
Alors, il n'est pas question de position du Kama Sutra. Je vous avertis, ni de pommeau de douche. Pas du tout.
Faites attention, ça glisse sous la douche.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a des accidents comme ça. Les urgences ont dû accueillir toutes sortes de couples qui s'étaient cassés la figure sous la douche à cause de leurs ébats. Mais non, moi aujourd'hui je vous parle d'urine et de douche. Oui, ça paraît un peu curieux ce que je vais vous raconter.
Bah, non, ça paraît assez logique. Hein.
Eh bien alors peut-être que vous allez confirmer, j'ai profité de la présence d'un gynécologue pour nous dire si c'est totalement erroné ou pas tant que ça. C'est une blogueuse, Christine Schoenwald, qui vous explique qu'il faut absolument faire pipi sous sa douche, mesdames, accroupi. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de renforcer votre plancher pelvien et donc améliorer votre sexualité. Et surtout, voilà ce qu'elle déclare, faire pipi sous sa douche pourrait mener à des orgasmes incroyables.
Et pourquoi les femmes, elles pourraient pas faire pipi debout ?
Mais oui, vous voulez l'égalité des femmes, mesdames les féministes, et bien voilà, faites pipi dans votre douche, debout ou accroupi. Non, là, il faut vraiment accroupi. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, si vous remusclez tous ces muscles autour du périnée, le plancher pelvien donc va être un peu plus solide.
On n'a pas besoin de faire pipi pour être accroupi.
Non, mais l'idée, c'est que si vous êtes accroupi, je me mets en position un peu. Il faut faire du pipi dans le studio,
Ariane. Merci.
Je me suis arrangée avant pour que ça n'arrive pas. Eh bien, on remarque au-delà du fait que ça fait terriblement mal aux cuisses, ce qu'il y a, c'est que ça va contracter effectivement ce bas-ventre, muscler ce plancher pelvien. Et apparemment, pour les femmes qui souffrent de douleurs pelviennes, pour les femmes qui ont du mal également à être excitées sexuellement, eh bien, tout cela, un peu comme les exercices de Kegel, vont vous permettre de raviver vivez cette excitation et surtout ce plaisir. Apparemment, l'intensité sexuelle est développée, décuplée grâce à cet exercice.
C'est très excitant de faire pipi, ça c'est sûr.
Voilà. Et retenir son pipi également pour... voilà.
Bon, Christian Janin, on a besoin de vos lumières.
Moi, je suis un inconditionnel de la gymnastique pélésienne, mais dans toutes les circonstances de la vie, c'est-à-dire à la fois dans... mais pourquoi pas en faisant pipi, ça m'avait échappé, mais je vais aussi le suggérer.
Elle va jusqu'à dire que ça augmente également la lubrification. Alors là, je comprends pas très bien le pourquoi du comment.
Moi non plus.
Voilà, vous non plus. Et ça me rappelle en fait cette histoire assez amusante. On en avait parlé, ça s'était passé en Angleterre, une université qui avait incité ses étudiants, pas moins de 15 000 étudiants, à encore une fois faire pipi sous leur douche, cette fois pour sauver la planète. C'était un geste écologique.
Ah oui, pour pas tirer la chasse d'eau.
Voilà, pour pas tirer la chasse d'eau et on fait des économies d'eau. Et ça se passait à Norwich et là-bas, ils sont un peu, allez j'exagère, mais presque en pénurie d'eau. Enfin, il y en a moins qu'ailleurs. Et donc c'était une manière de pouvoir faire des économies.
Mais parce qu'ils vivent pas dans la nature.
Un endroit en Grande-Bretagne où on manque d'eau, alors ça, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire.
Surtout en ce moment. Oui, j'avoue. J'aurais dû vous parler de Femme Fontaine pour être plus actue. Mais en même temps, regardez, aujourd'hui à Paris, en tous les cas, il fait beau.
Mais c'est la faute de Namila si on a tellement eu d'eau. À force qu'elle dise à l'eau, hein, vous imaginez.
Oh,
bien.
Brigitte.
Bon, allez, on se retrouve dans un instant. Plus sérieusement, on va revenir sur notre sujet du jour, l'IVG. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous. RMC. La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Nous évoquons aujourd'hui l'IVG. Est-ce un acte banal? Christian Jamin est avec nous, médecin spécialiste en endocrinologie et gynécologie. Alors, on a eu beaucoup d'hommes qui témoignaient. Je crois que c'est important aussi d'écouter ce que les femmes ont à nous dire. Muriel, merci de prendre la parole. Bonjour.
Bonjour Muriel. Bonjour Brigitte, pardon.
C'est,
bonjour,
c'est l'émotion, c'est pas grave.
Oui, bah, c'est une femme qui
appelle. Oui.
Oui, moi je voulais vous faire part de mon expérience dans l'IVG, parce que j'en ai subi trois dans ma vie. J'ai 53 ans et j'ai subi une IVG à 15 ans, mais pas décidée par mes parents. J'avais un petit copain à l'époque et donc voilà, je suis tombée enceinte. Mes parents ont décidé de me faire avorter. À l'époque, c'était très compliqué parce que j'avais un petit peu dépassé le délai, donc ça s'est fait en Angleterre. Et un an après, je tombe à nouveau enceinte avec le même petit ami. Et là, je me suis tue et j'ai laissé passer le délai et j'ai gardé mon enfant. Donc à 16 ans, j'étais maman d'un premier enfant, donc qui avait été décidé par moi. Et j'ai fait ma vie, pas avec le papa, mais bon, j'ai refait ma vie. J'ai à nouveau était avec un homme avec qui j'ai eu trois enfants, donc j'en avais quatre à mon actif. Le couple, notre couple allait très très mal. J'ai eu à nouveau une grossesse et là j'ai voulu de mon propre gré avorter. Et on m'a les services sociaux, finalement ma décision a été de le garder parce que j'ai été on me demandait de pousser ma grossesse et de le faire adopter, etc. Donc comme j'étais en couple à l'époque, j'ai décidé de le garder, cet enfant. J'en suis ravie aujourd'hui. Et puis notre couple a pas tenu, donc j'ai refait ma vie et au bout d'un an de fréquentation avec mon mari actuel, je suis à nouveau tombée enceinte. Et là, j'ai décidé de mon plein gré d'avorter parce que je trouvais que c'était trop court, donc sans lui dire. Donc j'ai avorté pour la deuxième fois. Mm-hmm. Et un an et demi après, on a décidé d'avoir un enfant ensemble, chose qui a été mission impossible parce que j'ai fait entre-temps une infection. J'ai fait une grossesse dans les trompes, donc on m'a enlevé une trompe et ça a été très compliqué après pour avoir donc on n'a pas eu d'enfant ensemble. Récemment, j'ai eu ma fille, ma dernière de 16 ans, qui a oublié sa pilule et qui est tombée enceinte aussi avec le petit copain. Et donc là, c'était juste pas possible. Je me suis non, j'aurais respecté au départ.
Oui, j'imagine bien que vous l'auriez laissé prendre la décision.
Oui, bien sûr, j'aurais respecté sa décision. Au départ, elle voulait le garder. Je respectais sa décision, mais en même temps, je me reprochais moi. 30 ans, 40 ans en arrière, en me disant mais c'est juste pas possible, mais c'est mes parents qui ont élevé moi à l'époque mon fils. Enfin, j'étais encore chez mes parents et je l'ai dissuadé. Mais bon, j'aurais compris qu'elle veuille le garder. Donc enfin pour moi l'avortement c'est voilà, il y a des choix à faire, il y a des circonstances qui font qu'on peut. Moi j'ai regretté un avortement dans ma vie, donc avec mon mari actuel, voilà, mais les autres et bon, peut-être celui à 15 ans, peut-être, vu que j'ai réitéré un an plus tard, mais bon, enfin, je trouve que l'avortement pour les femmes aujourd'hui, c'est un bienfait, c'est le choix de la femme.
En tout cas, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que vous avez eu beaucoup d'enfants, vous avez beaucoup avorté, et finalement, bah, vous vivez les choses telles qu'elles se sont passées, et voilà tout, quoi.
C'est cette liberté-là,
quelque part, que moi je revendique pour toutes les femmes.
Voilà.
Après, bien sûr que. Il y a certainement des personnes qui vous écoutent et qui vous jugent, mais c'est un manque de tolérance, voilà tout.
Voilà, tout à fait. Après, c'est un choix de chacun. Alors oui, on a des regrets. J'ai des regrets sur le dernier avortement, parce que j'aurais aimé avoir d'autres enfants avec mon mari actuel. Bon, ça s'est pas fait. Mais c'est un choix que j'ai fait moi, de mon propre chef, et j'ai des petits regrets aujourd'hui, mais voilà, c'est faut se dire que c'était peut-être pas le bon moment, c'était pas la bonne période.
Mais de toute façon, Muriel, quand on fait des choix, bah parfois après coup, on se dit tiens, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix à ce moment-là, voilà. mais à ce moment-là, c'était pour vous le meilleur choix.
Voilà. En ce qui concerne les femmes, voilà, moi je ne jugerai jamais une femme qui prend la démarche, enfin qui fait. C'est pas une démarche facile du tout, parce qu'on est jugé. On nous met devant le fait accompli. On nous demande même. Enfin, moi, mon deuxième avortement m'a demandé de porter ma grossesse à terme pour éventuellement l'abandonner. Voilà.
Moi, c'est peut-être ça contre lequel j'aurais envie de lutter, c'est que qu'on aide les femmes à prendre la bonne décision au moment où elles ont à la prendre, mais qu'on n'essaye pas de les influencer dans un sens ou dans un autre. Non, Christian Germain, j'imagine que.
Non. Alors d'abord, effectivement, il ne faut absolument pas que nous intervenions dans le choix. On est là pour expliquer les modalités et de rester aussi neutre que possible. Juste, j'aurais pu dire que avant d'en arriver à l'interruption de grossesse, on aurait pu parler de contraception peut-être de manière plus efficace en ce qui vous concerne.
C'est évidemment.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis outré quand je suis attaqué parce que je défends la contraception. Cela me rend hystérique. Qui peut dire qu'il laissera sa petite fille à 15 ans avoir un enfant sous prétexte qu'on lui a interdit la contraception? C'est ignoble.
Bien sûr. C'est vrai que derrière ce débat sur l'IVG, c'est évidemment le débat de la contraception, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aborder ce sujet avec vous, Christian Germain. On se retrouve après les infos. Vous pouvez bien sûr vous aussi témoigner au 32-16 comme Muriel ou comme les hommes qu'on a entendus tout à l'heure, bien sûr.
RMC, 14h-16h, la haine, l'amour et vous.